Et bonjour à tous, et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année, pour ceux que je n'ai pas eu la chance, l'occasion de rencontrer. Eh bien, oui, effectivement, Alex nous racontait ce matin que Roger Bacon est décédé cette semaine, jeudi, fête dernier, à 4h20, 16h20. M. Bacon luttait depuis un bon moment à le cancer, mais finalement, il est décédé, et Mme Bacon... Et lui ont été vraiment des pionniers au Québec. Ça fait des années et des années qu'ils servent le Seigneur à travers le Québec. Il a été missionnaire en Afrique. Il a été pasteur à Valleyfield pendant des années. Et ils ont vraiment consacré leur vie au service de Dieu. Tout un modèle, lui et son épouse. Madame Bacon, j'ai eu l'occasion de lui parler cette semaine. Et son mari venait de décéder. Et de voir le témoignage de cette dame, et oui, effectivement, elle versait des larmes, elle pleurait, elle venait de perdre son mari, marié depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. Mais en même temps, de me raconter comment ils ont eu l'occasion de chanter à l'hôpital. Il y a même une infirmière qui s'est jointe à eux pour prier avec eux. Et c'était tout un témoignage. Et elle louait Dieu, imaginez. Elle était à quelques heures à peine... qu'elle venait de perdre son mari, malgré cela, elle bénissait Dieu pour ce qu'il avait accompli à travers cette souffrance et cette maladie. Elle veut vous remercier pour vos prières, et certainement, on veut souhaiter nos sympathies à toute la famille. C'est une famille très consacrée, c'est incroyable. Marc Bacon, qui vient de perdre son père il y a à peine 3 jours, est en train de prêcher à Orléans. Il m'a donné son horaire, il m'a montré qu'il doit prêcher, je pense, 3-4 fois dans les prochaines semaines, avec un travail très exigeant en plus. Le service funéraire va se faire aux États-Unis, pour être plus près de la famille. La sœur de Marc est à Harrisburg, en Pennsylvanie. Donc, si vous voulez prier pour eux, Mme Bacon nous remerciait. C'est juste pour vous dire, on veut remercier les gars qui travaillent à la caméra pour diffuser sur Internet les messages et le service. Monsieur Bacon ne pouvait plus venir à l'église, il était trop malade. Mais il nous écoutait le dimanche matin et c'était vraiment une bénédiction pour lui. Et elle nous remerciait pour le ministère que l'église a à travers l'Internet. Et ça l'encourageait et était béni. Donc, merci. Elle tenait à ce que je vous dise, les frères. Merci à tous ceux qui travaillent l'audio, le visuel et tout ça, qui travaillent à diffuser ces messages et le service. Vraiment une belle famille. Donc, le Québec a perdu tout un pionnier au Québec et on veut louer Dieu pour le beau témoignage de cette famille. Eh bien, ce matin, on commence une nouvelle série qui s'appelle Bâtisseurs en mission. Et ce qu'on veut faire dans les prochaines semaines, à peu près 5 semaines, on veut retourner finalement et voir pourquoi on fait ce qu'on fait nous autres ici au sentier. Si vous êtes parmi nous depuis quand même quelques temps, vous êtes au courant que nous, on a une vision, on poursuit une vision ici. On a une mission bien claire, très intentionnelle dans ce qu'on veut accomplir comme Église. Et ça vient d'un passage, un commandement de fait que Jésus a donné à ses disciples, qui se trouve dans Matthieu 28. Jésus, il était ressuscité, il était prêt de partir. Et il donne cette mission, ce mandat aux disciples que nous recevons, que nous aussi, ça s'adresse à nous. Et Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné... » dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, notre mission, c'est ça, c'est le Seigneur nous a mandaté chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas au bâtiment, à l'Église, c'est pas la bâtisse, c'est nous autres, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. Le Seigneur nous confie comme mission, chacun d'entre nous, d'aller faire des disciples. Et c'est notre mission, faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Les gens, on veut annoncer l'Évangile, on veut voir les gens venir à Jésus et on veut les affermir. Et c'est ça qu'on s'est posé comme question, on a dit, OK, comment on fait ça, comment on fait des disciples? Alors, on a eu tout un sommet ici il y a quelques années où on a regardé 1400 versets ensemble. On était une quarantaine de l'Église avec 1400 versets pour essayer de répertorier c'est quoi un disciple et tranquillement définir c'est quoi. on a confié ça à une équipe qui a il y a des choses qui se chevauchent, qui reviennent souvent, pour finalement faire une définition adéquate de ce que c'est qu'un disciple de Jésus-Christ, conforme à Jésus. Et ensuite, on s'est posé, donc on a cette belle définition-là, et tous ceux qui prennent le cours, qui suivent le cours des membres, sont exposés à ça, ils voient ça, les nouveaux qui nous visitent, et si vous voulez qu'on vous rencontre, vous laissez votre nom au kiosque, on va se faire plaisir d'aller vous rencontrer, vous exposer ce qu'on fait, et on va vous présenter la vision de l'Église. Et là, on s'est posé la question, comment on fait ça? Donc, on s'est doté d'une vision en 5 éléments, 5 objectifs qu'on veut poursuivre, qui vont favoriser, qui vont nous aider à faire des disciples de toutes les nations. Alors, 5 éléments, rayonner, pour quelques-uns, si vous êtes ici pour la première fois, c'est peut-être la première fois que vous avez été exposé à ça, mais c'est ce qu'on fait ici. On est très intentionnel dans ce qu'on fait. D'abord, on veut rayonner et on va s'arrêter là-dessus ce matin. On va regarder toute cette question-là du rayonnement, qui veut dire simplement, dans un sens, on peut le mettre le plus simple possible, c'est d'aider la communauté, aider, aimer nos voisins, aimer notre ville, faire du bien à la ville, prendre soin des gens les plus vulnérables, et c'est ce qu'on veut faire. On va regarder ça ce matin, rayonner. Le deuxième élément de la vision, c'est de prêcher l'Évangile. Alors, on veut annoncer l'Évangile. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir au monde, c'est le beau message de l'Évangile. Permettre aux gens de connaître Jésus, découvrir Jésus et découvrir la vie éternelle. Ensuite, les gens qui viennent à Jésus, on veut les affermir. Et alors, on a tout un parcours de formation pour aider le nouveau chrétien à avancer dans sa vie chrétienne. On va vous exposer ça dans les prochaines semaines. Pour finalement voir le chrétien, le disciple, s'impliquer, servir. On voit cela dans les Écritures, que le Seigneur nous a donné un don à chacun d'entre nous. Et il veut qu'on mette en pratique ce don-là pour édifier les frères et sœurs. Et ensuite, on veut évidemment célébrer. On fait tout ce qu'on fait, c'est d'avoir une vie qui est conforme à Jésus-Christ, selon sa parole, afin d'honorer et adorer Dieu dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est Paul qui disait que l'on mange, que l'on boive, fait tout pour glorifier Dieu. Que ce soit notre travail, que ce soit dans mon rôle d'épouse ou d'époux, dans ma façon d'élever les enfants. Et aussi, ça comprend l'adoration du dimanche matin, la louange, la musique, et c'est ce qu'on veut regarder les prochaines semaines. On va faire un petit détour la semaine prochaine, parce que c'est un baptême, alors on vous invite à venir la semaine prochaine. C'est un baptême, il va y avoir des baptêmes dans les deux services. Ensuite, on va commencer, continuer la série, jusqu'à temps qu'on ait cette campagne de 21 jours, la Libération 21, c'est une campagne que l'on fait chaque année de 21 jours. On veut prier ensemble. Il y a des études bibliques qui sont préparées pour des groupes maison. Exceptionnellement, les groupes de maison seront invités à se réunir chaque semaine pendant 3 semaines. Les frères ont travaillé, les sœurs ont travaillé pour bâtir des livrets, des études bibliques qui seront utilisées dans les groupes. Il va y avoir des activités. Et le but, c'est finalement de nous redonner au Seigneur et de connaître la libération dans nos vies. Être libéré de certains péchés qui traînent dans nos vies, dans nos familles, ce qui nous ralentit à grandir dans le Seigneur. On veut connaître la libération. On veut aussi que notre ville connaisse la libération. Et on va passer donc 21 jours de prière. Et ça va nous préparer pour un événement que nous préparons, qui a été confirmé juste cette semaine, Mme Lépine, qui va venir le 19 mars, samedi soir, juste avant Pâques, une semaine avant Pâques. Et elle va donner, ça sera un bel événement où elle va venir partager toute son expérience qu'elle a vécue avec son fils et sa foi en Jésus-Christ. Donc, ça va être un bon moment. J'ai entendu son témoignage, c'est vraiment édifiant. Ensuite, on va passer à travers quelques semaines, 2 semaines, sur le thème de Pâques, pour finalement aboutir, ce qui va nous emmener jusqu'à l'été, une nouvelle série dans 1 Corinthiens. On va traverser le livre de 1 Corinthiens. C'est ce qu'on va appeler viral. Mais pour le moment, ce qu'on veut faire, on veut vraiment se concentrer sur la vision, principalement sur le premier élément de la vision, qui est rayonner. Juste avant, on va prier avant de commencer ce thème-là. Et on va prier pour la famille des Bacons. On va prier également pour ceux qui passent par des moments d'épreuve. Je parlais à une sœur ce matin qui me racontait que sa fille vient de passer à travers un moment très difficile. Alors, il y a des gens qui ont besoin de prière ici à l'Assemblée. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour ta grâce et par ton esprit. On veut te remercier pour ta parole et on te prie que ce matin, tu puisses vraiment nous saisir, nous toucher par ton cœur, que ton cœur puisse se déverser sur notre cœur, que nous soyons infectés par ta compassion et ta miséricorde, par ta grâce, et qui va se traduire par des gestes concrets d'aide et de secours envers les gens les plus vulnérables de notre société. Seigneur, on te prie que tu bénisses abondamment ce temps que nous aurons ensemble. On profite de l'occasion, Seigneur, que tu puisses mettre ta bonne main sur ces familles qui passent à travers soit des deuils, on pense à Mme Bacon qui vient de perdre son cher mari, aux enfants et petits-enfants, que tu puisses les bénir pendant ce temps d'épreuve et les encourager. Tu puisses fortifier notre frère Marc qui prêche ce matin à Orléans, tu puisses l'encourager, lui donner la force dont il a besoin. Et on te prie, Seigneur, pour les autres personnes à l'Église qui passent par des moments tellement difficiles. Secours-les, encourage-les et rappelle-leur que tu es présent, que tu sais exactement ce qu'ils vivent. Et on te prie que tu puisses leur accorder ta grâce. Alors, ce matin, veuille nous bénir ensemble. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Placé au cinquième rang des 100 plus grands intellectuels d'aujourd'hui par le magazine américain Foreign Policy et le mensuel britannique Prospect, Christopher Hitchens a écrit un livre intitulé « Dieu n'est pas grand. Comment la religion empoisonne tout ». Décédé il n'y a pas très longtemps, Hitchens était l'un des chefs de file des nouveaux athées. Pour Hitchens, la religion met notre monde en danger. Il va jusqu'à dire que la religion est immorale, que le monde serait bien mieux, en fait, sans religion. Maintenant, son livre va assez loin parce qu'il prétend même que Jésus, il ne croit même pas, il dit même qu'il met en question la naissance miraculeuse de Jésus, il met même en question l'existence même de Jésus. Et ce que Hitchens et d'autres auteurs ont contre la religion, particulièrement l'Église chrétienne, c'est qu'ils accusent l'Église de promouvoir l'injustice dans le monde et les guerres, la violence dans le monde. Mais vous allez voir qu'à travers ce qu'on va voir ce matin, c'est vraiment une vision tout à fait injuste de l'Église. Et c'est plein d'erreurs. D'ailleurs, quelqu'un a analysé le livre et on s'est aperçu qu'il était très sélectif dans ce qu'il faisait. Mais là, c'est intéressant d'apprendre, et j'ai entendu une entrevue l'autre jour, c'est vraiment intéressant d'apprendre que le frère de Hitchens, qui est un grand intellectuel également, auteur de plusieurs livres, est un chrétien. Et il s'est attaché au christianisme. Et lui aussi a analysé les propos des grands intellectuels de ce monde et les grands athées pour finalement arriver à la conclusion qu'il a mis dans un livre qu'il a intitulé « La rage contre Dieu », « The Rage Against God ». Il s'est aperçu qu'il y avait une grande rage parmi les grands intellectuels, les athées, certains athées, la plupart des athées, mais il va assez loin dans ses propos après avoir fait une analyse assez exhaustive. C'est vraiment intéressant. Mais l'une des critiques de son frère athée est que l'Église est responsable de la violence dans le monde et elle est responsable pour les guerres dans le monde. Mais quand on regarde les guerres à travers l'histoire, c'est avec un œil critique, on découvre que c'est le contraire, tout à fait le contraire. Par exemple, dans l'encyclopédie des guerres, une encyclopédie en 3 volumes, très respectée, montée par des chercheurs et des professeurs en histoire pendant plus de 10 ans de recherche, une encyclopédie très respectée. D'ailleurs, cette encyclopédie est recommandée par l'Association des libraires américaines et ils suggèrent que cette encyclopédie soit sur les tablettes de toutes les libraires et les bibliothèques aux États-Unis. Alors, une encyclopédie très étoffée, bien recherchée et respectée. Et voici ce que 10 ans de recherche par ces professeurs d'histoire, voici ce qu'ils ont découvert. Selon ces chercheurs, parmi les 1763 guerres, 123 guerres dans l'histoire sont de nature religieuse. En d'autres mots, ça représente que 6,98% des guerres seraient de nature religieuse. Maintenant, une guerre, c'est trop, on se comprend. Néanmoins, ce n'est vraiment pas le cas lorsqu'on dit que les Églises sont responsables des guerres. Mais non seulement ça, lorsqu'on soustrait les guerres qui ont été menées au nom de l'islam, et ça représente 66 guerres, on réduit, on chute le taux à 3,23%. Donc, la charge selon laquelle la religion cause des guerres est en fait fausse. Ce n'est pas vrai. Dans les faits, le christianisme a changé le monde pour le mieux, quand on regarde l'histoire. Avant les fêtes, par exemple, on s'est posé la question, que serait notre monde si Jésus n'était pas venu? Et on a regardé tout le bien que l'Église chrétienne a fait au cours de l'histoire. On a appris que les chrétiens ont élevé la dignité humaine. Ils ont pris soin des gens. Ils ont rendu l'infanticide, qui était très populaire à l'époque du Nouveau Testament. C'était incroyable le taux d'enfants qu'on tuait. Et ce sont les chrétiens qui ont eu une belle influence à ce niveau-là. Ils ont rendu l'infanticide intrinsèquement immoral et même illégal. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert des orphelinats, aidé les démunis. Ils ont ouvert des hôpitaux dans chaque ville où il y avait une église. Et les hôpitaux de l'époque étaient aussi un gîte pour les sans-abri. Ce sont les chrétiens qui ont influencé la vision des jeux gladiateurs. Ils ont fait cesser les sacrifices humains. Ils ont changé la vision du suicide, qui était considéré dans l'Empire romain comme un privilège. Mais ce sont les chrétiens, parce que sur la base du fait que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, alors il faut honorer chaque personne. Donc, c'est eux qui ont donné une nouvelle vision de l'être humain. Ce sont les chrétiens qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Ils ont influencé l'éducation et la science, la santé. Ils ont influencé l'économie, la moralité sexuelle. Ils ont même élevé la dignité de la femme, comme on a vu. Et même toute la question des droits de la personne vient des chrétiens. Au 12e et 13e siècle, ce sont les chrétiens qui ont mis ça sur la table, cette question et ce dialogue des droits de la personne, selon Brian Tierney, des professeurs à l'université de Cornell. Prenons aussi tout le système d'aide sociale que le monde occidental connaît aujourd'hui. Et ce sont les chrétiens qui ont emmené ça, qui ont influencé toute la question du système d'aide sociale. On voit la bonne influence des chrétiens partout dans le monde. Et c'est pareil aujourd'hui. Je lisais l'autre jour le témoignage de Rouhli Ghani, la femme du président, du nouveau président de l'Afghanistan, pays musulman. Le président est musulman lui-même. Mais j'ai appris que le Coran permettait aux musulmans de marier des femmes chrétiennes. Ça, je ne savais pas ça. Et lui a marié une femme chrétienne, une femme en tout cas qui est attachée à la Bible, au christianisme, et elle-même voit maintenant comme première dame sa mission. Elle a vu la condition de la femme dans ces pays, dans ce pays de l'Afghanistan. Son mari est devenu président depuis 2014. Et maintenant, la mission de cette première dame est de faire respecter la femme, d'améliorer la condition de la femme dans son pays. Elle-même est devenue le symbole de l'émancipation de la femme. Elle dit, je ne me rendais pas compte du symbole que j'allais devenir. Voyez-vous, le christianisme a grandement influencé la société pour le bien. C'était vrai dans le passé et c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est l'une des valeurs que l'on chérit comme Église. Nous voulons être une bénédiction, localement ici dans la région d'Outaouais et partout à travers le monde. Pourquoi venir en aide aux personnes dans le besoin? Voici quelques raisons. Tout d'abord, premièrement, prendre soin des vulnérables est la volonté de Dieu. Comme on le voit dans Michée 6, 8, ce passage de l'Ancien Testament, Dieu dit ceci, il révèle sa volonté. C'est un sommaire de la volonté de Dieu pour notre vie. Voici ce qu'il dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici la version Louis II 21. Voici comment on va le dire ici dans la traduction. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Deux mots dans l'original, faire justice ou mettre en pratique la justice, veut vraiment dire protéger ceux qui sont vulnérables, protéger les orphelins, les veuves, ceux qui sont à risque et qui sont vulnérables, qui sont laissés pour compte dans la société. Occupe-toi d'eux, ne fais pas de parti pris, ne fais pas de préférence, occupe-toi, assure-toi que les vulnérables sont protégés. Alors, deux mots dans l'original, pratiquer la justice, donc faire du bien, mais l'autre, c'est l'attitude. Je veux que tu le fasses avec un motif qui est avec une attitude de compassion et de grâce et de miséricorde. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voici un sommaire de la volonté de Dieu. Marcher humblement avec Dieu signifie évidemment le connaître intimement, être attentif à ce qu'il désire, à ce qu'il le passionne, à ce qu'il aime. Et c'est quoi qu'il aime? C'est prendre soin. Alors, concret, des gestes concrets, le mot justice en hébreu, des gestes concrets envers les gens vulnérables, mais avec aussi une belle attitude pleine de grâce, de miséricorde et de compassion. Donc, l'action, mais l'attitude aussi, avec compassion et amour. Le mot « justice » revient plus de 200 fois dans l'Ancien Testament et il est lié à cette entraide des personnes vulnérables, de prendre soin d'eux. Voici comment vous devez agir, donc. Il est continuellement dans l'Ancien Testament avec l'idée de prendre soin des vulnérables, des pauvres, des veuves, des orphelins. Les gens les plus vulnérables, finalement, dans la société. Un autre passage qui dit essentiellement la même chose dans Zacharie, qui nous montre que la volonté de Dieu, c'est qu'on prenne soin des gens. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. « Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre. Ne méditez pas contre l'autre, le mal, ne méditez pas le mal dans votre cœur. Quatre groupes de personnes, les veuves, les orphelins, les étrangers et les pauvres. Ils font partie de ce que certains appellent le quatuor des vulnérables. Évidemment que c'est ajouté au fil des ans. Maintenant, on pense aux réfugiés, aux sans-abri, aux monoparentaux et aux personnes âgées. Dans l'Antiquité, ces quatre groupes étaient les plus vulnérables. Ils n'avaient pas de protection sociale, ils vivaient au jour le jour, ils couraient le risque de mourir de faim à tout moment, à n'importe quel moment. Alors, dans ces passages, nous voyons que la qualité de la justice d'un pays, on parle de justice, c'est ce terme qu'on voit dans l'original qui revient plus de 200 fois, la qualité de justice d'un pays se mesure par la façon dont le pays va prendre soin des vulnérables. Comme Église et individuellement, on veut rayonner, on veut prendre soin des vulnérables, car c'est la bonté de Dieu. Mais il y a une seconde raison aussi. Ça reflète le caractère de Dieu. C'est ce que Dieu veut, mais c'est parce que c'est le caractère de Dieu. Dieu est comme ça. Dieu a compassion. Dieu prend soin et protège les vulnérables. Dans le psaume 146, verset 7, voici ce que nous pouvons lire. « Il a fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. » L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin, mais il fait dévier la voie des méchants. Un autre passage dans Deutéronome 10-17 qui dit ceci. L'Éternel, votre Dieu, fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne la nourriture et des vêtements. C'est frappant de voir à quel point Dieu se présente comme étant le défenseur de ces groupes de personnes vulnérables. Ne manquez pas un détail ici dans ces deux versets qu'on vient de lire. Avez-vous remarqué comment le nom de Dieu revient à chaque groupe de personnes? Dieu aurait pu dire « Dieu délivre les prisonniers, il ouvre les yeux des aveugles, il redresse ceux qui sont courbés. » Non, 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 non. Le Saint-Esprit, intentionnellement, a dit aux auteurs d'écrire ça comme ceci. Regardez qu'est-ce que ça a de l'air. « L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. L'Éternel fait droit à l'orphelin et à la veuve. » Pensez-vous que c'est par hasard? Absolument pas. Dieu s'identifie à chaque groupe de ces personnes qui sont vulnérables dans la société. Il tenait à coller son nom à chacun de ces groupes-là. Et ce n'est pas par hasard, c'est intentionnel. Voyez-vous, pour nous qui vivons en 2016, on prend ces choses pour acquises, on est habitué, on dit, ben oui, c'est normal. Mais attention, à l'époque, c'était révolutionnaire. Un spécialiste du nom de Vinod Ramachandra appelle même cela « justice scandaleuse ». Il explique que dans toutes les cultures anciennes dans le monde, le pouvoir des dieux, maintenant on comprend, c'est des dieux que les gens se sont faits, il y a un seul dieu, le dieu des Écritures, mais les peuples se faisaient des dieux, des idoles, et encore aujourd'hui. Alors, il a découvert dans sa recherche que le pouvoir des dieux, des pays, s'acheminait et s'identifiait toujours aux élites de la société, c'est-à-dire les rois, les prêtres, les chefs militaires, et non aux marginaux et aux exclus. À cette époque, s'opposer aux leaders de la société, c'était en fait s'opposer à Dieu. Mais ici, dans ces passages, Dieu ne s'identifie pas aux chefs, aux leaders, mais aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Il prend position en leur faveur. Et c'est ce que Dieu fait à travers l'histoire. Dieu prend leur défense et préconise l'émancipation. Le Dieu de la Bible se distinguait de tous les autres dieux des autres religions en s'associant aux faibles, aux veuves, aux gens vulnérables et aux pauvres. Alors, on veut prendre soin des vulnérables, des personnes dans le besoin. On veut rayonner et faire du bien aux gens de l'Outaouais, car c'est la volonté de Dieu, ça reflète son caractère. Mais une troisième raison aussi, c'est le fruit d'une personne remplie de l'Esprit, une personne qui est touchée par la beauté de l'Évangile qui va se convertir à Jésus-Christ, or, va produire dans sa vie, ça va déborder, va vouloir faire du bien à la société, à aimer sa ville. Prendre soin des vulnérables est le fruit de l'Esprit et de l'Évangile. C'est Jonathan Edwards qui a dit ceci. « Lorsque le Saint-Esprit nous permet de comprendre ce que Jésus a fait pour nous, le résultat est une vie qui jaillit spontanément en acte de justice et de compassion pour les démunis. » Ça va déborder. C'est vraiment intéressant. Tim Keller, qui est pasteur à New York, dit ceci. Il dit, à travers les années, il a repéré, il a fait une observation, à travers les années comme pasteur. Il dit avoir découvert une chose intéressante au fil des années. Il dit, il a découvert que ceux et celles qui étaient le plus affectés par le message de la grâce de Dieu, lequel nous sauve, non par les œuvres, mais par la foi seule, par sa grâce, uniquement par sa grâce, ces personnes les plus affectées par ce beau message de l'Évangile étaient les plus sensibles aux iniquités sociales autour d'eux. Il y a un lien direct entre ma perception de la grâce de Dieu et faire le bien autour de moi. Plus je suis émerveillé du message de l'Évangile, plus je serai porté à aimer, à avoir de la compassion à des gens autour de moi qui sont dans le besoin. C'est ce que le salut par grâce, le moyen par la foi, produira des bonnes œuvres. Elle produira la sainteté, on voudra changer, on voudra grandir, elle produira des délivrances, on va vouloir lutter contre le péché dans notre propre vie, et on va vouloir glorifier Dieu, mais on va vouloir faire du bien aussi autour de nous. D'un côté, on est justifié par la grâce, c'est un don, c'est par la foi seule, c'est par la grâce seule, la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans ses lettres, la justification, nous sommes justifiés devant Dieu uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. En même temps, nous avons la lettre de Jean qui dit, la foi sans les œuvres est morte. En d'autres mots, ce n'est pas que la foi... Ce n'est pas que les œuvres vont te sauver, vont te procurer la vie éternelle et vont t'aider à avoir une relation avec Dieu qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas ça. On est uniquement sauvé par la grâce. Mais cette foi, si elle est réelle, la foi qui est réelle, qui donne le salut parce que c'est une foi qui s'appuie totalement sur la grâce de Dieu, va automatiquement produire de belles œuvres. Martin Luther a combiné les deux et voici ce qu'il dit. En fait, il combine cet enseignement de Paul qui enseigne que nous sommes uniquement justifiés par la foi, c'est la grâce de Dieu, un don de Dieu, et en même temps le texte dans Jacques qui dit « la foi sans les œuvres est morte ». Il combine les deux et voici ce que ça donne. Il dit « nous sommes sauvés par la foi seule ». Mais non par une foi qui reste seule. D'accord? Et ça, c'est bien important, les amis. Parce que Jésus lui-même l'a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est le fruit dans ta vie, le fruit qui dans ta vie qu'on voit le changement, la transformation, qu'on voit la foi, qu'on voit la réalité de cette foi. Maintenant, oui, on va avoir des moments qu'on va tomber. Il y a des textes dans les Écritures, comme un Jean, qui dit on veut se repentir, on confesse. Et oui, absolument, comprends ça. On est en progression, là, c'est sûr. Mais il va y avoir cette transformation à mesure que je serai saisi par la beauté de l'Évangile. Je serai porté à aider les personnes démunies. C'est ce que Jacques dit. Il va y avoir des œuvres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jacques va plus loin. Jacques dit non seulement que la foi sans les œuvres est morte, il dit, celui qui a cette foi réelle va produire des œuvres. Et après ça, il donne la liste des œuvres. Et voici ce qu'il dit dans Jacques 2. Il dit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, à quoi ça vous fait penser? Des personnes dans le besoin? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, pas juste spirituels, voyez? Physiques. À quoi sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est pour ça que les premiers chrétiens prenaient soin des gens vulnérables de la société. Dès le début, on voit la naissance de l'Église dans Acte 2. Et qu'est-ce qu'ils font? Les chrétiens prêchent l'Évangile, ils sont remplis du Saint-Esprit, et ils prêchent l'Évangile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prendre soin des gens démunis. Et on le voit, rendu au chapitre 6, on voit déjà dans Acte 6, verset 1, ça dit, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Ça, mes chers amis, c'est très terre à terre. Là. C'est terre à terre. Ils prenaient soin de nourrir les veuves. Le mot « veuve » dans le Nouveau Testament est très large. Ça ne veut pas simplement dire, quoique ça l'inclut certainement les femmes qui avaient perdu leur mari. Mais ce n'était pas juste ça. Des fois, les hommes étaient en prison. Parfois, ils avaient abandonné leur femme, leur épouse. Ils avaient divorcé. Ça comprend tout ça, les monoparentales et tout ça. Le mot « veuve » est assez large dans le Nouveau Testament. Et il y en avait beaucoup, beaucoup de veuves à l'époque. Écoutez, 30 % des femmes en haut de 30 ans, non, 30 % des femmes, de toutes les femmes étaient veuves, et 40 % des femmes entre 40 et 50 ans étaient veuves. Imaginez, c'est presque la moitié des femmes entre 40 et 50 étaient veuves. Donc, il y avait des veuves qui étaient soutenues, évidemment, par la famille, par le gouvernement, mais il y avait plusieurs veuves qui étaient vraiment sans ressources, et l'Église les a pris en main. D'ailleurs, on voit dans Timothée 5 tout un programme, ils avaient une liste de rôles qu'on inscrivait, ce que Paul appelle les véritables veuves. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des femmes qui n'ont aucune ressource, elles n'ont pas de famille derrière elles pour les aider. Ça parle aux jeunes veuves de se marier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement de femmes que les historiens appellent la nouvelle femme qui rejetait toutes les valeurs de la famille. Elles ne voulaient plus avoir d'enfants, elles divorçaient leur mari, abandonnaient même leurs enfants. Et là, Paul dit, je veux que les jeunes femmes se marient. En d'autres mots, reprenez ce rôle. Le mariage est une institution divine. Et donc, Paul veut corriger tout ça. Donc, il y avait plusieurs veuves à l'époque, et l'Église en prenait soin. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Il y avait cette critique, il y avait quelques veuves qui étaient négligées dans la distribution, il y avait comme une négligence, on ne réussissait pas à être très efficace à prendre soin des veuves. Et qu'est-ce que Paul va faire? Qu'est-ce que les apôtres vont faire? Ils vont choisir des serviteurs remplis du Saint-Esprit. Et c'est quoi leur rôle? Ces hommes qui vont choisir un bon témoignage rempli d'esprit, ils vont s'assurer que les veuves ont de la nourriture à tous les jours. Ils vont s'occuper d'eux. Voici donc sept hommes remplis de l'esprit qui donnent la distribution de la nourriture alimentaire. Voyez-vous? Tim Keller, un pasteur de New York, raconte comment il a fait sa thèse de doctorat sur un sujet, la formation des diacres. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il a dit. Il raconte qu'il a découvert dans sa recherche, finalement, pour sa thèse, que les diacres, depuis le début de la naissance de l'Église, les diacres avaient pour mandat, c'était leur rôle, finalement, de s'occuper des soins des vulnérables. C'est de donner la nourriture aux gens, aux pauvres, aux démunis. C'était leur tâche, leur responsabilité. C'est juste que beaucoup plus tard, finalement, on a donné aux diacres le rôle plutôt financier, administratif, s'occuper des bâtiments. Mais pendant des années, depuis la naissance de l'Église, pendant des années, ce qu'il a découvert, finalement, c'est que les diacres, c'était des personnes qui s'occupaient de la distribution des nourritures, prenaient soin des gens vulnérables. Et c'est intéressant parce que la thèse, finalement, son programme de doctorat, le directeur de programme, finalement, est venu le voir et il a dit, écoute, on voit une négligence à travers les dernières décennies, comment l'Église a abandonné un peu cette responsabilité. Alors, on veut revenir à ça, c'est une valeur, on le voit dans les Écritures, c'est important de prendre soin des gens vulnérables de notre ville. Alors, sa thèse avait pour but, finalement, non seulement faire l'histoire, la recherche pour établir le fait qu'effectivement, les diacres s'occupaient des gens démunis, de l'entraide, mais non seulement ça, il a mis un programme sur pied pour former les diacres afin qu'ils retournent à cela et qu'ils recommencent finalement à soutenir et aider les gens dans le besoin. Maintenant, un argument qu'on va entendre de temps en temps lorsqu'on dit aux gens, regarde, ce serait important comme Église et comme individu qu'on aille aider les démunis. Un des arguments qu'on va entendre de temps en temps, ils vont dire, ouais, mais écoute, aujourd'hui, on vit en 2016, et le gouvernement aide les gens démunis. Alors, nous, on devrait se concentrer à prêcher l'Évangile et tout ça, on devrait laisser ça au gouvernement. Le gouvernement s'en occupe, il s'en occupe bien. Bien, vous serez surpris de découvrir que le gouvernement de l'époque, s'en occupait aussi. Ils avaient le ministère d'entraide. Premièrement, les synagogues le faisaient dans leur communauté juive. Une fois par semaine, ils prenaient les offrandes qui avaient été recueillies au cours de la semaine, et ils prenaient les offrandes et les distribuaient aux gens démunis. Mais non seulement ça, le gouvernement aussi dans l'Empire romain s'occupait des démunis et des veuves en particulier. Il y avait même des lois qui obligeaient les familles à soutenir les veuves de leur famille. Les familles devaient même nommer ce qu'on appelle un seigneur de la dot. Chaque famille devait avoir un seigneur de dot qui avait la responsabilité de s'assurer que les veuves dans leur famille étaient bien pris soin, on en prenait bien soin. Et non seulement ça, si tu ne le faisais pas, si tu ne t'occupais pas des veuves, on pourrait te traîner en justice, t'emmener vraiment à te poursuivre en justice. Alors, on prenait le soin des veuves assez au sérieux, si bien que lorsque tu faisais une entrevue pour aller être embauché au gouvernement, l'une des questions qu'on te posait lors de l'entrevue, c'est « Est-ce que tu prends soin de tes parents? » Et prendre soin de tes parents voulait dire, est-ce que tu les soutiens financièrement? Alors, c'est quelque chose de très sérieux. On prenait ça au sérieux et ça nous aide à comprendre le verset dans 1 Timothée 5, 8 qui dit ceci. Il dit, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Pourquoi? Parce que les non-croyants soutiennent leur famille soutient les veuves. Donc, ne pas prendre soin financièrement dans le passage, dans le contexte, c'est d'agir pire que ceux qui ne croient même pas à Jésus-Christ dans la société. Ils avaient des lois qui les protégeaient. D'autres personnes ont un autre genre d'argument. Ils vont dire, écoute, la priorité, c'est de prêcher l'Évangile. Ce n'est pas d'aider les démunis. Ils vont dire, nous, notre priorité, c'est vraiment de prêcher l'Évangile. L'argument de Paul, premièrement, l'argument de Paul est le suivant. L'argument dans le passage de 1 Timothée 5, 8. Certains concluent, ils disent, voici comment ils comprennent le passage, ils disent, ou ils vont simplement dire comme argument, si le monde prend soin des démunis, l'Église n'a pas besoin d'en prendre soin. Mais l'argument de Paul va de l'autre côté et dit, si le monde prend soin des vulnérables, combien à plus forte raison l'Église devrait en prendre soin? Voyez-vous l'argument de Paul? Et c'est ce qui est arrivé, l'Église primitive, la première Église, dans les premiers siècles, prenait soin des démunis. Et ça a été tout un témoignage, ça a été une odeur, une belle odeur de l'Évangile, parce que même les incroyants, ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, et même ceux qui méprisaient le christianisme, étaient obligés de reconnaître que les chrétiens allaient beaucoup plus loin que la société dans leur entraide. Ils aidaient même les ennemis, ils aidaient toutes les couches de la société, ils ne se limitaient pas uniquement autour d'eux, et ça les a impressionnés. D'ailleurs, l'empereur romain Julien, qui méprisait en passant, il n'était pas biaisé, il méprisait la foi chrétienne, a tout de même reconnu que le christianisme gagnait des nouveaux convertis parce que les chrétiens étaient si généreux que les gens étaient fascinés et inspirés par leur amour et leur générosité. Voyez-vous le témoignage que ça fait? Ils étaient généreux non seulement avec les leurs, mais envers les étrangers. Et ça, ça fascinait l'empereur. L'argument, donc, qui croit notre responsabilité de prêcher l'Évangile et que l'Évangile, c'est le plus beau don que tu pourrais faire, et effectivement, oui, je crois à ça, que l'Évangile, c'est le plus beau don qu'on puisse faire à quelqu'un et découvrir que c'est possible d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir la vie éternelle, le pardon de ses péchés, absolument. Mais on va regarder que les Écritures nous incitent à aller à aussi aider les gens dans le besoin. Prêcher l'Évangile, mais aussi aimer notre ville, et nos voisins, et particulièrement les gens vulnérables. Premièrement, comme on l'a vu, aider les autres, les gens démunis, reflète le caractère de Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Deux, c'est le fruit de l'Évangile dans nos vies. Trois, le Seigneur nous demande d'aider les démunis. Oui, d'abord ceux de l'Église, c'est sa volonté. Il nous demande d'aider ceux de l'Église en premier, mais aussi l'extérieur de l'Église. Il y a ce que Kevin DeYoung appelle la proximité morale, on en a déjà parlé, c'est que plus que c'est proche de toi, plus que tu as une responsabilité qui incombe sur tes épaules, en d'autres mots, ta famille immédiate, la famille spirituelle, ta famille de l'Église. Mais ça va aussi au-delà de ça. Ça va en dehors des portes de l'Église. Voici le verset dans Galates 6:9 qui dit ceci. « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers les chrétiens. » Ensemble, très fort, pratiquons le bien envers
tous.
Ça veut dire qui?
Tout le monde.
Oui, prochain, notre prochain. Envers tous, oui, pratiquons le bien envers tous, et en particulier, voyez-vous, oui, en particulier envers nos proches dans la foi. Donc, on s'occupe des gens chez nous, dans notre Église, premièrement, notre famille, deuxièmement, les gens autour, dans l'Église, et ensuite, tout le monde. C'est un bon témoignage. Donc, ça reflète le caractère de Dieu, c'est le fruit d'avoir compris l'Évangile. Le Seigneur nous demande d'aider, en dehors des portes de l'Église, et c'est un bon témoignage. Ça laisse une bonne odeur de l'Évangile. Lorsqu'une ville perçoit qu'une Église n'existe que pour elle-même et que pour ses propres membres, la prédication de cette Église ne résonnera pas aussi fortement avec les gens du dehors. Il y a quelque chose qui ne sonne pas bien, là. De l'autre côté, si les voisins voient les membres de l'Église aimer leur ville à travers des œuvres de bienfaisance, de poser des gestes concrets, pleins de compassion, ils seront ouverts même au message de l'Évangile, dans certains cas. S'occuper des gens vulnérables et faire du bien à notre ville, on doit le faire par amour en premier. Ça reflète le caractère de Dieu. Dieu aime, il est plein de compassion, il est le défenseur des gens vulnérables. Et nous aussi, nous voulons refléter le caractère de Dieu. Mais ça aura aussi des impacts, des incidences sur l'Évangile. C'est un moyen très puissant que les chrétiens pour les chrétiens, de mettre comme la toile de fond à l'évangélisation. C'est d'ailleurs ce qui explique la croissance phénoménal dans un contexte très difficile de la première Église. Alan Crader, qui a fait l'analyse de l'explosion de l'Évangile dans les premières années, dans les trois premiers siècles, il a fait une recherche très étoffée à une époque très difficile pour l'évangélisation, pour répandre la foi, le message de l'Évangile. Il s'est aperçu que le christianisme a grandi à peu près 40% chaque 10 ans. Elle grandissait 40% chaque 10 ans. D'accord? À un moment en passant, où il n'y avait pas vraiment d'évangéliste à l'extérieur, c'était très difficile parce qu'un gars qui sortait dehors, commençait à prêcher, ou une femme qui commençait à prêcher, faisait tout de suite mettre en prison. C'était à l'époque de Néron où on persécutait les chrétiens. Devenir chrétien, c'était, attends-toi, tu vas te faire jeter en prison, ou un membre de ta famille va se faire tuer, ou va aller en prison. À cette époque-là, si difficile, un climat tellement difficile pour l'Évangile, pour l'expansion, pour la distribution de l'Évangile, il y avait quand même une croissance qui était vraiment phénoménale pour le temps. Écoutez, on n'avait pas vraiment d'évangélistes, parce que tu te faisais mettre en prison, tu n'avais pas de comité missionnaire, il n'y avait pas de mission de missionnaire, tu n'écrivais pas des traités, il n'y avait pas de traités dans ce temps-là, des brochures comme on a, comme nous autres, il n'y avait aucune ressource de ça. Et non seulement ça, c'était tellement difficile, c'était tellement épeurant être chrétien, tu sortais dehors, tu risquais de te faire mettre en prison, que le dimanche matin, on fermait les portes de l'église pour ne pas laisser entrer ceux qui n'étaient pas baptisés. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des informants qui parfois se faisaient passer pour des chrétiens, puis rentraient pour avoir les noms, tiens, regarde, oh, je connais Nicole, puis ils rapportaient ça au gouvernement, là, puis ils se faisaient arrêter, des gens arrivaient chez vous. Là. Donc, on avait appointé les diacres. Écoutez bien ceci, les diacres, les diaconesses dans l'Assemblée. On avait demandé aux diacres d'être des bonnes sœurs. C'était leur responsabilité. On les mettait aux portes de l'Église en arrière, puis ils se tenaient là. Ils ont cherché des gars là, comme costauds. Là. Tu sais, costauds. Robert, tiens Robert. Hein, Robert Dupuis, il me semble que je le mettrais, lui. Diacre aux portes. Laisse pas personne entrer. Imagine-toi donc, à une époque où c'était... Imagine-toi, tu veux. Et pourtant, dans ce climat tellement difficile où tu n'avais pas vraiment d'évangélistes, tu n'avais pas de missionnaires, en tout cas les évangélistes ne duraient pas longtemps, tu n'avais pas de missionnaires, pas de comité missionnaire, pas de brochure, pas de médias, pas de page web, pas de texto. Aïe, comment est-ce qu'ils faisaient? Pas de texto, pas de cellulaire, pas rien, tout ça, pas de TV, pas de radio, rien. Puis non seulement ça, t'empêchais les gens de rentrer, les nouveaux de rentrer dans l'Église. Malgré ça, l'Église a grandi en moyenne environ 4% chaque année. Il y a des gens qui venaient à l'Évangile. Malgré qu'ils savaient que si tu venais à l'Évangile, tu te faisais peut-être et probablement tuer. Expliquez-moi ça. Vous allez dire, ben oui, normalement, c'est la puissance de l'Évangile. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui fait ça. Absolument. Mais Paul aussi dit comment ils vont en entendre parler si tu prêches pas. Donc, Dieu se sert de prédication. Mais oui, mais tu n'en as pas, tu ne peux pas en avoir de prédication. Tu te fais mettre en prison. T'ouvres ta bouche, tu es en prison. Qu'est-ce que tu fais pour gagner les gens à l'Évangile? Vous savez comment? Alan Crader a fait une recherche intensive pour expliquer la croissance de l'Église. Et vous savez, c'est quoi? C'est que les gens étaient fascinés. Attention, les gens de l'époque, dans la société, trouvaient que le christianisme, c'était une superstition. Les gens riches les méprisaient, provoquaient parfois des émeutes contre les chrétiens. Et malgré ça, des gens étaient fascinés, touchés par l'amour de cette gang de chrétiens-là qui aidaient les démunis, qui étaient généreux, qui allaient beaucoup plus loin dans leur générosité. Ils aidaient tout le monde. Ils aidaient même des ennemis. Et les gens de la société étaient attirés, inspirés par l'amour que les chrétiens avaient les uns pour les autres. Est-ce que j'entends des « Amen » Imagine-toi. C'est-tu pas glorieux, ça? Est-ce que l'Église, le sentier, peut arriver là? Absolument. En aidant les gens, en prenant soin des gens, en se mouillant, en s'impliquant dans la société, dans notre ville, essayer d'embellir encore plus notre ville, faire du bien à notre ville. J'entends Luc Angers qui dit « Amen ». Je comprends, c'est Luc, c'est tellement dévoué depuis des années à s'investir dans la ville. On arrive, Luc, on s'en vient, là. On est là. On veut se mouiller, on veut s'impliquer à faire du bien à notre ville. Il y a toutes sortes de moyens, comment tu fais ça? Il y a toutes sortes de moyens de le faire. Tu t'impliques dans une communauté, dans un organisme communautaire, dans ton coin de chez vous. Ça n'a pas besoin d'être nous autres, des fois, ça peut être individuellement, chaque membre de l'Église, ça peut être nous autres, comme pour l'Église, comme par l'Église. Oui, l'Église veut faire des projets aussi d'entraide. Et je suis tout excité de t'entendre, Dominique. Dominique me parle de tous les projets « J'aime mon voisin » cet été qu'il va faire avec les jeunes. Les jeunes vont aller aider les personnes âgées, tout ça, vont ramasser des feuilles. Un paquet de projets, il y a une grande liste. Et, amen, « J'aime mon voisin ». Il y a même une course qui s'organise là pour cet été, et ça va être super. Toutes sortes de projets. Mais il y a des besoins dans notre société. On veut se mouiller là. Moi, il y a une sœur qui est venue me voir ce matin. Elle travaille au GTMI. Et elle me racontait tous les besoins qu'ils ont. Et j'ai dit, donne-moi la liste. Envoie-moi la liste. On va l'offrir. On va l'écrire peut-être dans le bulletin. On veut s'impliquer. On veut faire du bien à notre ville. On veut que la ville puisse dire, « Eh mon Dieu, cette église-là, une église qui nous aime. » L'Église de Sentier aime Gatineau. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que toi, tu as fait le plus grand sacrifice. Tu nous as aimés lorsqu'on n'était pas aimables. Nous faisions partie des rejetés du ciel. Tu étais en droit de nous exclure de ton royaume et pourtant tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Alors qu'on te blasphémait, qu'on te rejetait, tu as envoyé ton Fils ici. Lui, qui était riche, s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Merci Seigneur. On veut répandre une bonne odeur d'Évangile ici à Gatineau et dans toute la région d'Outaouais et ailleurs dans le monde pour ta gloire, Seigneur. Amen.